Vous écoutez, on lit pour vous.
Cinq faits essentiels à connaître sur le féminicide, un texte de la rédaction paru le 25 novembre 2024 sur le site ONU Femmes. En 2023, toutes les 10 minutes, une femme a été tuée intentionnellement par son partenaire ou un membre de sa famille. Les meurtres liés au genre féminicide sont la manifestation la plus brutale et extrême de la violence à l'égard des femmes et des filles. Le dernier rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC et d'ONU Femmes, publié à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et du début des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, montre que le nombre de féminicides est en hausse dans le monde entier. En dépit de la prise de conscience croissante de ces meurtres et de l'indignation générale qu'ils suscitent, il reste encore beaucoup à faire pour prévenir la violence à l'égard des femmes, mettre fin à son escalade, fournir des services adéquats aux survivantes et punir les auteurs de ces crimes. Qu'est-ce que le féminicide? Définition et cause. On entend par féminicide l'homicide volontaire dont le mobile est lié au sexe de la victime. A contrario, d'une manière générale, le mobile d'un homicide ou meurtre peut ne pas être lié au sexe de la victime. Le féminicide s'explique par la discrimination à l'égard des femmes et des filles, les rapports de force inégaux, les stéréotypes de genre ou les normes sociales préjudiciables. Il s'agit de la manifestation la plus brutale et extrême de la violence à l'égard des femmes et des filles, qui s'inscrit dans un continuum de formes de violence multiples et connexes, à la maison, au travail, à l'école ou dans l'espace public, telles que la violence entre partenaires intimes, le harcèlement sexuel et d'autres formes de violence sexuelle, les pratiques préjudiciables et la traite des êtres humains. 1. Les femmes et les filles sont plus susceptibles d'être tuées par leurs proches. En 2023, environ 51 100 femmes et filles dans le monde ont été tuées par leur partenaire intime ou par un autre membre de leur famille, par exemple leur père, leur mère, leur oncle ou leur frère. Cela signifie qu'en moyenne, chaque jour, 140 femmes ou filles sont tuées par un membre de leur propre famille. Les partenaires intimes et les ex-partenaires sont de loin les plus susceptibles de commettre un féminicide puisqu'ils commettent en moyenne 60% de l'ensemble des meurtres commis par un partenaire intime ou un membre de la famille de la victime. Dans de nombreux cas, seuls les meurtres liés au genre perpétrés par un partenaire intime ou un membre de la famille sont comptabilisés comme des féminicides, alors que l'on sait que des meurtres liés au genre ont lieu dans de nombreux contextes au-delà de la sphère privée. Ils peuvent être en lien avec un viol ou des violences sexuelles commises par une personne inconnue de la victime, avec des pratiques préjudiciables telles que les mutilations génitales féminines ou les crimes dits d'honneur, avec des crimes motivés par la haine liés à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, ou encore avec des conflits armés, des gangs, la traite des êtres humains et d'autres formes de criminalité organisée. Cette année, on a enregistré le plus grand nombre de féminicides perpétrés par un partenaire intime ou un membre de la famille, ce qui montre que le monde ne parvient pas à empêcher des morts qui pourraient être évitées par une intervention précoce des services de police et un système judiciaire sensible au genre et l'accès à un soutien et une protection centrée sur les survivantes. 2. Le féminicide est un problème universel. Le féminicide constitue une crise mondiale qui touche les femmes et les filles de tous les pays et territoires. Selon le nouveau rapport, en 2023, c'est l'Afrique qui a enregistré le plus grand nombre absolu et relatif de meurtres de femmes et de filles commis par un partenaire intime ou un membre de la famille de la victime, avec environ 21 700 victimes, 2,9 victimes pour 100 000 femmes et filles. Les Amériques et l'Océanie ont également enregistré un taux élevé de féminicides commis par un partenaire intime ou un membre de la famille en 2023, respectivement 1,6 et 1,5 pour 100 000, tandis que ce taux était nettement inférieur en Asie et en Europe, respectivement 0,8 et 0,6 pour 100 000. 3. L'échelle réelle du féminicide est probablement beaucoup plus élevée. Si les chiffres présentés dans ce rapport sont alarmants, ils ne montrent que la partie émergée de l'iceberg. De trop nombreuses victimes de féminicide ne sont toujours pas recensées pour environ 4 meurtres intentionnels de femmes et de filles sur 10, les informations disponibles ne permettent pas de les recenser comme des meurtres liés au genre en raison des différences nationales dans les pratiques de recensement et d'enquête de la justice pénale. Pour connaître l'ampleur réelle du problème et y répondre, disposer de données complètes et ventilées est crucial. Pour aider à dépasser les limites actuelles de la collecte de données, l'ONUDC et ONU Femmes ont élaboré le cadre statistique de comptabilisation des meurtres de femmes et de filles liés au genre, féminicide, approuvé par la Commission statistique des Nations Unies en mars 2022. Derrière chaque chiffre se cache une femme ou une fille dont la vie s'est achevée brutalement à cause de la violence masculine, de la misogynie et des normes sociales qui tolèrent et perpétuent la violence à l'égard des femmes et des filles. Vous écoutez 5 faits essentiels à connaître sur le féminicide, un texte de la rédaction paru le 25 novembre 2024 sur le site ONU Femmes. 4. Les femmes et les filles marginalisées sont celles qui sont les plus confrontées au risque. Les femmes en vue, notamment les femmes politiques, les défenseuses des droits humains et les journalistes, sont souvent la cible d'actes de violence délibérés en ligne et hors ligne, dont certains aboutissent à une issue fatale et à des homicides volontaires. En janvier 2022, des défenseuses de l'environnement étaient visibles pendant leur résistance dans au moins un quart de tous les conflits socio-environnementaux du monde, et dans 81 de ces conflits, elles ont été tuées. En 2023, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, HCDH, a alerté sur le fait que les défenseuses des droits humains étaient doublement ciblées en raison de leur travail et de leur sexe, à la fois en ligne et hors ligne. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme a recensé au moins 34 défenseuses des droits humains tuées dans des pays touchés par un conflit en 2022. Malgré les limites des données, les données disponibles au Canada et en Australie suggèrent que les femmes autochtones sont touchées de manière disproportionnée par les meurtres liés au genre. Avec 4,3 femmes et filles pour 100 000, le taux d'homicide de femmes au Canada était 5 fois plus élevé en 2021 parmi les populations autochtones que parmi les femmes et les filles non autochtones. La violence à l'égard des personnes transgenres et appartenant à la diversité de genre étant en hausse, les données de l'étude Trans Murder Monitoring 2023 ont montré que 94 % des 321 personnes trans et appartenant à la diversité de genre dont le meurtre a été recensé étaient des femmes trans ou des personnes transféminines. Ce chiffre ne donne qu'un petit aperçu de la réalité et des tendances, puisque les données reposent uniquement sur les cas déclarés et toutes les victimes transgenres ne sont pas identifiées comme telles ou comme appartenant à la diversité de genre dans leur déclaration de décès. Pour prévenir les féminicides, les autorités nationales doivent enregistrer des données complètes sur les victimes, en identifiant les femmes et les filles les plus à risque. Les pays peuvent mieux façonner les mécanismes de prévention et de protection. 5. Le féminicide peut et doit être évité. Les meurtres liés au genre et les autres formes de violence envers les femmes et les filles ne sont pas inévitables. Souvent, le féminicide est l'aboutissement d'épisodes répétés de violence fondés sur le genre et de l'escalade de cette violence, ce qui veut dire qu'il peut et doit être empêché en réagissant de manière efficace dès les premiers signes de violence. Les initiatives qui se concentrent sur la prévention primaire, la modification des normes sociales et la participation de communautés entières pour instaurer une tolérance zéro à l'égard de la violence envers les femmes sont les plus efficaces pour prévenir les meurtres liés au genre. Les secteurs de la police et de la justice ont un rôle important à jouer en croyant et en soutenant les survivantes de la violence fondée sur le genre, en répondant aux signalements de cas de violence et en punissant leurs auteurs pour mettre fin à l'impunité. Dans de trop nombreux cas, les victimes de féminicides avaient déjà signalé avoir subi des violences et leur meurtre aurait pu être évité. Les examens approfondis des meurtres liés au genre, auxquels participent les familles et les communautés, constituent une approche prometteuse pour conduire des réformes et améliorer les réponses institutionnelles. En analysant les homicides passés, ces examens visent à identifier les lacunes et à prévenir les féminicides à l'avenir. En Afrique du Sud, une réduction significative des cas de féminicide a été liée à des lois sévères et des politiques fortes visant à prévenir la violence fondée sur le genre, à un contrôle strict des armes à feu et à la création d'un espace permettant aux groupes communautaires et de défense des droits des femmes de partager leurs connaissances et d'élaborer des politiques. En Aotearoa, Nouvelle-Zélande, le comité d'examen des décès dus à la violence familiale a analysé 320 décès dus à la violence familiale 2009-2020 et constaté que 56 % des victimes étaient des femmes et des filles. Les résultats ont mis en évidence des problèmes systémiques tels que des dossiers biaisés et une réactivité insuffisante des agences lorsqu'elles traitent avec des Maoris, des femmes, des enfants et des personnes handicapées. Pour y remédier, le comité a recommandé d'adopter les méthodes utilisées par les organisations Kaupapa Maori. Cette approche plus respectueuse met l'accent sur le bien-être, la formation des prestataires de services pour créer des systèmes plus réactifs et des interventions axées sur la famille. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour mieux comprendre les causes de l'augmentation des féminicides dans certains contextes et les facteurs qui ont permis de les réduire dans d'autres, afin de mieux orienter les stratégies de prévention. Mais ce que nous savons, c'est que les organisations de défense des droits des femmes joue un rôle crucial dans la prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles en suscitant des changements politiques, en demandant au gouvernement de rendre des comptes et en fournissant des services essentiels centrés sur les survivantes. Pourtant, en 2022, moins d'1% des dépenses mondiales d'aide et de développement ont été consacrées à la violence fondée sur le genre. Le renforcement du soutien financier aux organisations de défense des droits des femmes est capital pour réduire et prévenir les meurtres liés au genre et toutes les formes de violence fondées sur le genre à l'égard des femmes et des filles. Alors que le monde s'apprête à célébrer le 30e anniversaire des visionnaires, déclarations et programmes d'action de Beijing, qui comprenait un plan d'action pour mettre fin à toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, rejoignez la campagne #Unité, tous unis, pour les #16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. #pas d'excuses, agissez pour mettre fin à la violence envers les femmes. Mettez fin à l'impunité en rendant les auteurs de ces crimes responsables de leurs actes et en instaurant une tolérance zéro envers la violence à l'égard des femmes et des filles. Adoptez, mettez en œuvre et financez des plans d'action nationaux pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Investissez dans la prévention et dans les organisations de défense des droits des femmes afin de garantir les droits des survivantes et leur accès aux services essentiels. C'était 5 faits essentiels à connaître sur le féminicide, un texte de la rédaction paru le 25 novembre 2024 sur le site ONU Femmes.
Léger renforcement de l'identité canadienne, un texte d'Alex Fontaine paru le 30 juin 2025 dans Le Devoir. De plus en plus de Canadiens se disent très attachés à leur pays au moment où ce dernier est une cible récurrente des attaques verbales et commerciales du président américain. C'est ce que révèle un nouveau sondage sur l'identité canadienne. Depuis 2019, un regroupement d'organisations de recherche en politique publique sonde les Canadiens sur leur identité et sur leur attachement à leur pays et à leur province. Pour la mouture 2025 de l'exercice, le groupe a interrogé 5391 adultes d'un bout à l'autre du pays entre le 1er mai et le 16 juin 2025 au téléphone et en ligne. Quel est l'effet de la guerre commerciale menée par les États-Unis et des menaces d'annexion répétées par Donald Trump sur le sentiment d'attachement des Canadiens envers leur pays? Est-ce que cela a influencé leur position identitaire? Voilà, entre autres, ce que tentaient de mesurer les sondeurs. À la lumière des résultats, ils ont observé un léger renforcement de l'identité canadienne en 2025. Ce sont 87% des répondants qui se disent très ou assez attachés au Canada, une proportion semblable aux années précédentes. Cela dit, le pourcentage de personnes se disant très attachées au pays est passé de 51% en 2024 à 57% en 2025. Dans toutes les provinces, ainsi que dans le Nord, la proportion de répondants qui se sentent très attachés au Canada a augmenté depuis 2024, lit-on dans le document présentant les résultats du coup de sonde. L'exception Québec. L'attachement au Canada est moindre auprès des Québécois francophones que des Canadiens hors Québec, révèle le sondage. Le quart des répondants francophones de la belle province s'est dit peu ou pas du tout attaché au pays, contre à peine 9% chez les répondants du reste du Canada. Le Québec est aussi la seule province où les résidents se disent très attachés à leur province dans une plus grande proportion que ceux qui se disent très attachés à leur pays, et ce, par une marge de 20 points de pourcentage. Au-delà de l'attachement, la spécificité québécoise s'observe également du côté de l'identité. Cette année, au Québec, La moitié des sondés se disent Québécois seulement ou d'abord. Chez les francophones, cette proportion grimpe à 56 %. Dans le reste du pays, seuls 14 % des répondants s'identifient d'abord ou seulement comme quelqu'un de leur province. Malgré tout, le sondage avance que 23 % des Québécois francophones se considèrent comme Canadiens seulement ou d'abord en 2025, en hausse par rapport aux 11 % mesurés en 2019. Dans le reste du Canada, c'est 55 % en 2025 contre 47 % 5 ans plus tôt. Se sentir mal compris. Les personnes autochtones sondées ont quant à elles révélé avoir une identité mixte. 70 % s'identifient à la fois comme Canadiens et comme autochtones. Du côté de Terre-Neuve et Labrador, où les résidents affichent depuis 2019 de forts taux d'identification à leur province, 2025 est la première année où plus de répondants s'identifient avant tout comme Canadiens, 39 % que comme Terre-Neuviens et Labradoriens, 35 % Rappelons que la province n'a rejoint le Canada qu'en 1949. Enfin, si un sentiment est partagé d'un océan à l'autre, c'est celui d'être mal compris. Que ce soit à Terre-Neuve et Labrador, 86 % dans le Nord, 81 % au Québec, 75 % ou en Ontario, en queue de peloton, à 55 %, une majorité de répondants estiment que leur province ou territoire a une culture distincte qui est souvent mal comprise des gens vivant ailleurs au Canada. C'était « Léger renforcement de l'identité canadienne », un texte d'Alex Fontaine paru le 30 juin 2025 dans Le Devoir.
Soleil launière au cœur de la grande soirée Lumière des Nations. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 1er août 2025 dans le magazine Fugue. Dans le cadre de Fierté Montréal, Fugue a tendu le micro à Soleil launière, artiste multidisciplinaire, pour mieux connaître son parcours créatif et identitaire lors d'une immense soirée consacrée aux arts autochtones à l'Esplanade Tranquille. Dirais-tu que c'est très queer de mélanger les disciplines artistiques? Mais en, c'est queer et décolonial. On ne se bloque pas à une forme spécifique. On se laisse être qui on est en tant qu'artiste et en tant qu'humain. Ça ouvre des portes dans mon esprit créatif. Mon spectacle est déjà très mélangé avec de la musique, de la poésie et de l'art-performance. Quand je vois d'autres formes d'art qui émergent à côté et qui abordent des sujets différents en apportant la réflexion plus loin, je trouve ça super inspirant. Comment t'identifies-tu dans le spectre de la queerness? Je suis bispirituel et pansexuel. À chacun sa façon d'exprimer comment il se sent en tant qu'être bispirituel. Moi, j'aime beaucoup la connexion à quelque chose de plus grand que nous, relié au monde des esprits. Ce n'est pas juste le genre et la sexualité, même s'ils sont inclus. C'est la façon de se sentir à l'intérieur et d'être lié au monde. J'utilise le mot « femme », pas seulement pour le genre, mais aussi pour évoquer l'énergie. L'énergie féminine et l'énergie masculine sont présentes dans mon corps d'une manière fluide. J'ai l'impression en étant mère que j'accepte la mère en moi comme une grande vague. Plusieurs personnes autochtones bispirituelles m'ont expliqué que ce concept existait depuis des temps immémoriaux et qu'il avait été mis de côté avec l'arrivée des colons blancs et leur religion. Puis, il commence à reprendre sa place depuis quelques années dans les communautés. Quand as-tu senti que ça t'interpellait et que tu voulais te l'approprier? Je me suis toujours senti entre deux. Adolescente, je l'ai découvert d'abord dans la sexualité. J'aimais les hommes et les femmes. Au lac Saint-Jean, j'avais des relations plus facilement avec des garçons parce que c'était la norme. À 17 ans, j'ai commencé à avoir des petites relations avec des femmes. Ça m'a rendu plus libre. J'ai aussi côtoyé des hommes et des femmes bisexuels qui m'ont fait découvrir cette réalité. Vers 24-25 ans, en étant avec des personnes trans, j'ai découvert le mot « pansexuel ». Dans ces années-là, je suis allé passer beaucoup de temps en Nouvelle-Zélande, où la communauté queer est extraordinaire. J'ai trouvé mon assise là-bas. J'ai commencé à me dire queer davantage. Ça m'a lancé plus loin dans mon acceptation de moi, de mon corps et de qui je suis totalement. À mon retour, vers la fin de la vingtaine, j'ai découvert le concept de « two spirits », bispiritualité. À quel point l'art queer autochtone en général se déploie-t-il de nos jours? Comme l'art autochtone prend de l'ampleur et que les personnes queer sont mieux acceptées à l'intérieur des communautés, les artistes autochtones queer prennent de plus en plus leur place. Ce n'est pas pareil partout, mais à Macheteuillatch, avec un de mes ex, on était retournés dans la communauté. Il commençait à parler de faire sa transition. Il n'y avait pas de regard croche dans la communauté de voir deux femmes, tandis qu'à Robertval, juste à côté, c'était beaucoup plus fermé, même si ça tend à s'ouvrir. Tu es une artiste qui fait de la musique, du théâtre, de la performance et du mouvement. Comment toutes ces formes se nourrissent-elles? Au début de ma pratique artistique, j'avais l'impression de devoir faire une seule chose. Mais quand je faisais seulement de la musique, je me sentais bloqué à l'intérieur. Lorsque je suis allé juste en théâtre, j'avais la même impression. Idem en danse. Je n'étais jamais capable de briser les murs de qui j'étais vraiment. À l'intérieur de l'art performance, j'ai trouvé une multitude. Ça m'a poussé à intégrer du théâtre, de la musique, de la danse et des arts visuels dans mon art performance. Je veux enlever les frontières. C'est extrêmement décolonial. Ça m'a replongé dans les rituels de ma communauté pour m'exprimer de manière plus profonde, sans toujours faire appel aux mots. Comment présentes-tu ton premier album, Taoueou, sorti en octobre 2023? En l'écoutant au complet, on traverse la recherche identitaire. On commence avec Joséphine Bacon, qui lit un poème qu'elle a écrit pendant que je dansais lors d'une résidence. Peu à peu, elle m'apprend à le dire. Je suis tombée enceinte pendant que je faisais l'album. On finit l'album avec le cœur de mon enfant dans mon ventre. Ça fait une belle boucle de l'aîné à l'enfant à venir. C'était « Soleil launière au cœur de la grande soirée Lumière des Nations », une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 1er août 2025 dans le magazine Fugue.